Interview.
1RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Je suis en compagnie de Jean-Pierre Huit et Philippe Méjean. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Dans le cadre du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on va parler de la gestion des déchets par la communauté de communes du Diwa et donc sur notre territoire Diwa. Élu référent, c'est ça Jean-Pierre Huit?
Tout à fait.
Philippe Méjean, c'est quoi l'intitulé déjà?
Responsable du pôle environnement et patrimoine, donc qui inclut le service déchets.
Ce service de déchets est maintenant parti. On s'était vu il n'y a pas si longtemps pour en parler de la nouvelle, de la restructuration même, j'allais dire, de cette collecte des déchets dans le Diwa. Maintenant, c'est parti. Un premier bilan, s'il vous plaît, messieurs.
Alors, nous avons commencé à changer notre mode de collecte au cours du mois d'octobre. Ça s'est terminé fin novembre. Donc, le premier bilan qu'on peut aujourd'hui évoquer, c'est qu'on n'est pas si mal que ça. Bien sûr, comme chaque réforme, hein, quand on change des choses, il faut que les habitudes se prennent. Et nous, nos calculs de positionnement, de collecte et tout ce qui va avec, on n'est pas si mal que ça. Les services travaillent pour essayer d'améliorer. Et ce fonctionnement, je pense qu'on peut l'améliorer encore, mais avec l'aide de tout le monde. Hein.
Quand on parle de positionnement de ces points de collecte, ça avait été réfléchi déjà en amont et évidemment il y a une phase de test une fois que c'est effectif. Les retours sont plutôt positifs et ça fonctionne, ces points de collecte sont...
Ça fonctionne pas si mal que ça. On a des endroits qui sont un petit peu critiqués. Voilà, on peut dire qu'on est critiqué. Mais je rappelle tout simplement que le choix des endroits où sont posés ces points dits propres sont un choix du conseil municipal. Voilà. Nous, on est là pour s'assurer que la collecte se fasse bien. Bien sûr, on a fait des propositions au niveau de nos calculs, on a fait des propositions aux communes, aux conseils municipaux, en disant que ça serait pas mal si c'était là, là, là ou là. Et voilà, après, c'est le conseil municipal qui est souverain.
Voilà, on peut peut-être rappeler l'objectif de cette réforme, hein. Mettre en place des conteneurs semi-enterrés tels qu'ils ont été proposés pour les ordures ménagères. L'idée principale est de limiter mécaniquement ce qu'on peut mettre dans une poubelle, parce qu'on trouvait auparavant dans nos poubelles bien trop de choses qui ne devaient pas y figurer. Donc c'est encore un peu le cas, puisqu'on a fait un premier test sur la place du Mazel pour savoir ce qu'il y avait dans ces conteneurs après quelques semaines de fonctionnement. On s'aperçoit que dans ces poubelles, il y a encore pour plus de la moitié, voire dans certaines les trois quarts, des choses qui n'ont pas à y être, qui pourraient être triées, qui pourraient être apportées en déchetterie pour un coût bien moins important que celui de traitement des ordures ménagères. Parce que quand vous jetez un kilo d'ordures ménagères dans ces bacs, ça coûte 32 centimes à la collectivité, une tonne, 320 euros. Si vous triez, en moyenne, ça coûte entre 2 et 3 fois moins cher, puisque les frais de collecte, de transport sont couverts en partie par des retours, soit de vente de matériaux, soit d'aide des éco-organismes. Donc c'est tout l'objet de la réforme, c'est de transformer des tonnes d'ordures ménagères qui coûtent cher en tonnes d'ordures ménagères triées qui coûtent moins cher. L'idéal, ce serait d'avoir des tonnes d'ordures ménagères en moins, c'est-à-dire d'acheter moins d'emballage,
en plus, les gens,
de jeter son compost dans son jardin. Voilà, et ça, si on ne le retrouve pas dans le circuit de la collecte publique, on ne le retrouve pas dans la comptabilité non plus de la collectivité et donc sur les feuilles d'imposition.
Cette question sur le compost, d'ailleurs, il existe des composteurs publics.
Oui.
Est-ce que c'est une réflexion que vous avez à la communauté de communes ou peut-être même que ce serait du ressort des mairies?
Ça fait plusieurs années que la communauté de communes, en partenariat avec le syndicat de traitement, le CITRAD, facilite la diffusion de composteurs qui étaient jusque-là revendus avec des aides dont on bénéficiait de la part du CITRAD à 15 euros aux particuliers. Ça a augmenté récemment à 30 euros. Donc on va se reposer des questions à cet endroit-là. Et puis on a fait des tests de compostage collectif à 7 endroits dans le Diwa. On l'a fait dans des centres de vacances, au Martouré, on l'a fait au lycée, on l'a fait également en pied d'immeuble, à Rocoubo, à Pluviane. Plus ou moins réussis ces tests, on sait maintenant ce qui fait qu'ils sont réussis. Ils sont réussis quand il y a des gens qui se prennent en main pour bien gérer ce compost collectif et si la collectivité ou un tiers les accompagne pour amener un peu de technicité, un peu de matériaux secs à mélanger. Donc on va essayer de travailler en cours de cette année pour les développer dans les centres-bourgs, donc en accord avec les communes qui le souhaiteraient, sur Die, Luc-en-Diois, Châtillon-en-Diois, La Motte-Chalancon. On va réfléchir à installer plus de composteurs collectifs et à rebooster un peu la diffusion des composteurs individuels.
Donc là, on est d'accord, c'est les gens qui doivent brasser leur compost,
oui.
C'est ça ? Il
oui.
faut qu'il y ait
oui.
une petite démarche collective de don à la collectivité, en fait, derrière celui qui s'en occupe va passer un peu de temps à ça.
Oui, mais il récupère en contrepartie le compost, c'est-à-dire que la collectivité derrière ne récupère pas le compost.
Mm-hmm.
Le compost, il est récupéré par les usagers qui s'entendent entre eux pour leur jardin. Voilà.
Oui, en pied d'immeuble, je vois celui de Rokubo, hein, Jean-Pierre Witt, parlons de celui-là. Est-ce qu'ils ont des jardins, les gens qui habitent dans cet immeuble ?
Non, ils ont très peu d'espace naturel, mais ils sont en pied d'immeuble et ça profite donc au voisinage. Et il y a donc les résidents là, qui sont dans ce lieu gèrent un petit peu. Et surtout, on a le gros avantage d'avoir l'ESAT sur Rokubo, qui, dans le cadre des équipes d'espace vert, passe et brasse ce compost.
Ouais. En tout cas, ça sous-entend, c'est ce que tu disais, Philippe, ça sous-entend qu'il y ait quelqu'un qui accompagne quand même, qui vienne régulièrement voir si ça tourne.
Voilà. Okay. C'est indispensable.
Et ce sera un service intercommunal.
Alors pour le coup, l'achat du matériel collectif, il serait entièrement pris en charge par la collectivité, comme ça a été le cas là sur les premières expériences. Hein, puisque derrière, c'est un gain net pour la collectivité. Une tonne de compost pour la collectivité, elle nous coûte l'investissement dans le composteur, c'est-à-dire quelques centaines d'euros pour un point de compostage collectif. Et derrière, les charges de fonctionnement sont nulles. Mmh. À part aider un petit peu à droite et à gauche, mais ça n'a rien à voir avec le coût qu'on aurait pour évacuer de l'eau quelque part à Valence. Quoi.
Ouais. Voilà. Et cette masse-là ne se retrouve pas.
Ne se retrouve pas. Hein, et c'est,
dans, déchets,
c'est dans nos ordures ménagères, ça représente entre 20 et 30% du poids. Donc c'est énorme en termes de coût. Hein. Si tout ce qui était compostable était composté, on aurait une économie sur le territoire de près de 700 à 1000 tonnes. Donc à 300 euros la tonne, vous voyez l'économie potentielle qu'on a. Alors on la fera jamais en totalité, hein. Ce n'est pas possible pour tout le monde de faire ce tri-là. Mais il y a un gain potentiel important à cet endroit-là. Pour revenir sur la réforme, peut-être sur ce qui s'est fait matériellement. Hein. Vous avez vu la disparition de 1000 bacs sur le territoire à roulette. Ils ont été remplacés.
Conteneurs verts. Là,
des conteneurs verts à roulettes, dont on s'est aperçu qu'ils étaient en bien mauvais état pour certains d'entre eux. On a pu en revendre quand même une bonne partie à des collectivités voisines.
Ah, parce qu'il y en a encore qui tournent avec.
Oui, bien sûr. Oui, on n'est pas les derniers à changer de système. On a installé à la place des conteneurs semi-enterrés. Donc, il y en a sur 100 et quelques points, 120 points exactement. Et il y en a 200, donc plus ceux qui sont enterrés pour le tri, donc on a installé 300 conteneurs de tri. Et au total, pour le tri, on s'aperçoit qu'on a 100 conteneurs de plus sur tout le territoire. Donc les poubelles, pour certains, se sont un peu éloignées pour la part ordure ménagère, ça c'est une réalité physique, mais en moyenne, pour le tri, les poubelles se sont aussi rapprochées de l'habitant. Mmh. Et ça, c'était tout l'objet de la réforme, c'est de proposer au même endroit la possibilité d'apporter sa poubelle classique et de trier. Tout le reste devant aller en déchetterie. Donc ce sera sur ces mêmes endroits, si les communes en sont d'accord, qu'on mettrait aussi des points de compostage collectif uniquement dans les zones où il n'y a pas de jardin. Voilà. Là où il y a des jardins, l'idée c'est d'aller plutôt sur du compostage individuel. Cette réforme, elle a produit des changements très importants dans le métier des agents. Ils étaient à pousser des bacs par tout temps. Aujourd'hui, ils sont chauffeurs seuls dans leur camion. Avant, ils étaient deux. Et ils sont grutiers, donc c'est un métier avec plus de technicité, moins de danger et plus de salubrité. Donc ça, c'est une évolution.
Oui, voilà, ils ne sont pas en contact du tout avec...
On ne le note pas assez, hein, mais c'est une évolution sociale majeure due à cette réforme. Et elle était pensée comme telle. Pour l'usager, il y a une contrainte de volume maintenant, puisqu'on peut jeter des sacs au maximum de 80 litres. On ne peut plus mettre, comme on trouvait avant, son radiateur, son sèche-linge, etc., qui doit aller en déchetterie, je le rappelle. Donc pour l'usager, il y a quelques contraintes physiques de plus, mais tous les points sont regroupés. Et on s'aperçoit que les usagers jouent bien le jeu. C'est-à-dire que les premiers enseignements de la réforme sont que, alors qu'on s'attendait à avoir plus d'incivilité qu'avec les bacs, puisque c'était les retours d'expérience qu'on avait d'autres collectivités. Donc on avait prévenu les maires en disant, attendez, il faudra 3 à 6 mois que ça se cale, etc.
Alors quel type d'incivilité, par exemple, était crainte
des gens qui jettent les sacs n'importe où, etc. Alors ça s'est vu sur certaines communes, a dit, sur les vieux points, pendant 1, 2, 3 semaines.
Ouais, celui en bas, là, vers le Méros, là, vous voyez, rempli encore.
Voilà, manque d'informations, gens qui râlent parce qu'il y a des distances supplémentaires à parcourir avec leur sac. Bon. Là, c'était 50 mètres, mais dans d'autres endroits, il faut convenir que ça s'est éloigné parfois de plus. Ouais. Quoi. Donc, mais ces mouvements d'humeur ont été bien moins importants que ce à quoi on s'attendait. Et de manière générale, les retours des élus qu'on a aujourd'hui en commission sont que pour la quasi-totalité des points, on a vraiment des points propres, comme nous souhaitons les appeler, alors qu'on s'attendait à gérer beaucoup plus d'incivilité, un pic d'incivilité pendant tout cet hiver. Donc c'est plutôt un retour positif sur la forme et la salubrité. Alors, il faut dire que les consignes données aux agents sont aussi bien appliquées de leur part. C'est-à-dire que quand ils collectent, s'il y a des choses qui n'ont pas à être posées par terre, qui sont, ils les ramassent, ils les remettent dans le camion ou dans les bacs. La seule exception, ce sont les encombrants, puisqu'on n'a aucun moyen de les ramasser avec notre matériel. Ça casserait les compresseurs hydrauliques dans les camions. Donc on ne peut pas ramasser les encombrants. Donc là, ce sont les communes qui sont en charge de les ramasser. Et elles font, elles aussi, des efforts conséquents dans ce domaine. On s'aperçoit qu'on a moins de points à nettoyer, donc c'est plus facile aussi, quelque part. Mais il y a un vrai effort conjugué de l'usager, de la communauté de communes et des communes, pour nettoyer ces points qui, du coup, sont mieux utilisés. Si on le laisse propre, les gens ont tendance à le conserver propre d'eux-mêmes. L'autre excellent enseignement qu'on tire, c'est qu'on s'attendait à une baisse de 15 à 20% des apports d'ordures ménagères, donc chères, 300 euros la tonne. Et sur les 3 derniers mois, c'est effectivement 20% de baisse qu'on a noté par rapport à l'année dernière. Alors, il faut attendre, c'est bien d'avoir un 1 à 2 ans de recul sur ce genre d'opération.
Enfin, d'entrée de jeu, les gens...
D'entrée de jeu, mécaniquement et d'un point de vue de la discipline individuelle, à quelques exceptions près, mais c'est normal, c'est le fonctionnement de toute société, il y en a qui refusent ce changement ou qui râlent parce qu'ils s'estiment lésés, et des fois... avec des raisons de se sentir lésé.
C'est principalement la distance, d'ailleurs, qui est mise en cause. Hein. Voilà. C'est pas tellement le point de collecte ou la forme des poubelles, quoi.
Pour être honnête, la praticité aussi. C'est-à-dire que... alors, les gens disent c'est plus haut, c'est moins accessible. En fait, c'est à la même hauteur que les bacs auparavant, exactement. C'est normé. Un point doit être à 90 cm de haut. Alors, c'est vrai que quand on lève la trappe, pour les personnes qui sont petites, donc elles se lèvent facilement, mais il est parfois difficile de la baisser. Alors, certaines communes ont mis une petite ficelle de rappel. Ce n'est pas gênant que la trappe reste ouverte de temps en temps. On met de l'eau dans le conteneur, mais...
De toute façon, le deuxième qui passe derrière...
Il va refermer. De manière générale, c'est plutôt bien tenu. Et c'est vrai que pour les personnes de petite taille, c'est difficile de refermer. Mais quand vous aviez un bac poubelle auparavant, vous ne pouviez pas, pour les personnes de petite taille aussi, lever des fois complètement le couvercle, selon les conditions. Donc, il n'y a pas de grosse différence avec le service d'avant, de ce point de vue-là. Ensuite, il y a des phénomènes de bourrage qu'on rencontre. Phénomènes de bourrage.
C'est-à-dire un sac beaucoup trop gros qui vient obstruer la...
Alors ça, c'est arrivé. Ou alors aussi des sacs qui s'empilent à la verticale au lieu de se répartir dans le conteneur correctement. Donc on va essayer de résoudre ça en travaillant sur le déflecteur que de manière un peu plus aléatoire, ils répartissent les sacs à droite, à gauche.
Le déflecteur, c'est-à-dire la partie...
Sous la trappe, quand vous refermez la trappe, il y a une espèce de glissière qui envoie le sac, pas exactement à la verticale, mais qui l'envoie un petit peu plus loin normalement. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner exactement comme on s'y attendait.
Donc du coup, les conteneurs se remplissent trop vite. Et d'ailleurs, sur le sujet des conteneurs qui se remplissent trop vite, moi j'ai un exemple de la commune de Barnave, je vais le citer. On a un conteneur de carton, un conteneur de plastique, donc le jaune, le bleu, le vert bien sûr, et les ordures ménagères. Et le carton et le plastique se remplissent à une vitesse incroyable et restent parfois 2-3 jours avant d'être collectés. Est-ce que maintenant... vous pouvez avoir des retours sur des endroits où il n'y a pas assez de poubelles,
C'est là où on s'aperçoit que le message est bien passé, parce que donc...
Vous attendiez pas à un tel investissement.
Si, c'est ce qu'on voulait, on avait un peu des doutes à ce que ça se mette en place tout de suite. Voilà, donc c'est ce que disait Philippe, les OMR baissent, on s'aperçoit que dans nos déchetteries, il y a de plus en plus d'apports, Il y a de plus en plus de passages. Nos bennes de tri se remplissent aussi très rapidement. Alors, par rapport à ta question sur Barnave, c'est ce que je disais. Il faut qu'on ait des modifications de nos tournées. Voilà, c'est ce qu'on est en train de remouliner, de recalculer. Mais c'est vrai qu'on est surpris par cette réussite, entre guillemets.
Ouais.
Pourvu que ça dure. Et je reviendrai aussi sur ce que disait Philippe tout à l'heure. Un conteneur vert. Un gars qui, toute sa vie, bouge ce conteneur vert, je ne pense pas que ce soit un métier. Alors forcément, on est critiqué, mais on leur a donné une possibilité de se former, de changer leur métier, et ça marche. Ils sont vraiment heureux dans ce nouveau métier.
Voilà, pour les employés, en tout cas, c'est quelque chose de très positif.
Très positif. Ouais. Et ils sont bien dans le coup. Ils sont vraiment, ils posent des questions. On travaille vraiment ensemble.
Je me rappelle que la dernière fois, on avait parlé aussi du fait qu'il allait y avoir moins de personnel pour bouger ces poubelles, forcément, mais que vous les aviez tous reclassés. Tout ça s'est bien passé aussi.
Oui, tout ça va très très bien, grâce à la compréhension de tout le monde. Hein. Mm-hmm. Voilà.
Et un peu plus d'employés du coup en déchetterie, si les déchetteries ta base là.
Où vont les emplois qui ne sont plus sur la collecte? Parce qu'effectivement, la collecte, on a divisé par 2,5. Le nombre d'heures qui sont consacrées à cette collecte des ordures ménagères. Mécaniquement, ils vont se loger dans la collecte du tri sélectif. Et là, on est effectivement en train de se régler. C'est-à-dire que jusque-là, on n'avait pas de tournée régulière. On est en train de les organiser. Le problème, c'est que le tri sélectif, quand on le collecte avec les camions actuels, on le collecte avec beaucoup d'air dedans. Et donc, on va tester toute cette année... Donc, on va faire avec les camions tels qu'on les a et on va tester des systèmes de collecte par compression parce qu'on n'était pas sûr complètement de notre coût à cet endroit-là. Donc on va sûrement le tester pendant l'été et on espère dans un an avoir des camions qui peuvent aller beaucoup plus loin dans des tournées ou faire des tournées beaucoup plus longues et donc continuer à faire des économies parce que collecter et transporter de l'air...
Parce que c'est le même camion qui fait les deux là.
Non, justement, le camion ordures ménagères ne fait aujourd'hui quasiment que les ordures ménagères. Très exceptionnellement, il peut porter secours sur la collecte sélective. Mais la collecte sélective, elle est faite sans compression. Et ça, c'est une évolution qu'on doit faire, mais on ne peut pas faire tous les investissements ensemble, puisque là, on a investi quand même de manière importante sur ce service l'année dernière, plus d'un million d'euros, sans emprunt, puisqu'on a utilisé... l'argent qu'on avait mis un peu de côté les années d'avant en arrêtant de renouveler notre matériel comme on avait l'habitude de le faire. Donc on l'a laissé vieillir, donc on a payé un peu plus d'argent en réparation. Mais du coup, tout le renouvellement, on l'a investi dans le nouveau matériel. Donc là, pour les camions, il faut prendre le temps de refaire un peu la capacité d'autofinancement du service sans toucher... à l'impôt, quoi. C'est quand même l'objectif principal qu'ont fixé les élus.
Et puis on peut inviter les usagers quand même à compacter un peu, ça se fait quand même. Hein. On peut compacter sa bouteille, même chez soi déjà, c'est moins gros.
Mais
quoi.
Bon, par rapport à la capacité d'une presse dans un camion,
c'est vrai.
Voilà. Mais c'est pas neutre, donc compacter si vous le pouvez, c'est toujours ça de gagner. Mais du coup, on va mettre plus d'un an à apprendre à mieux collecter. Compacter et transférer tous ces nouveaux déchets qu'on n'a plus dans la poubelle classique mais qui se retrouvent en déchetterie ou dans le tri. Donc là, on va faire des essais cette année de compaction en déchetterie, de compaction de ce qu'on a collecté dans le DIWA avant de le transporter à Valence pour le tri. Donc on a déjà commencé pour diviser nos trajets par deux ou trois. Et ça, c'est rendu possible par le fait qu'on a moins d'ordures ménagères. Donc on a plus de temps d'agents qu'on peut consacrer à des manipulations en déchetterie et à de la collecte sélective. Donc la plupart des agents sont là, en collecte sélective, en transfert, en manutention sur les sites et en maintenance. Et on a un peu plus d'ouverture d'heures de déchetterie, une journée de plus sur 10, hein, qui était fermée deux demi-journées dans la semaine auparavant, entre le lundi et le samedi. Là. Donc c'est ouvert maintenant entièrement du lundi au samedi, tous les jours. Et puis on aura des heures en plus sur Luc et Minglon en été, puisqu'il est proposé d'ouvrir la totalité du samedi, alors que pour l'instant c'est ouvert qu'à la demi-journée, donc en heure d'été, à partir de Pâques cette année, puisque l'heure d'été c'est le week-end de Pâques, on ouvrira entièrement le samedi sur Luc et Minglon.
Il y a cette question moi, qu'on m'a laissée et que je dois vous poser. Pourquoi est-ce que dans le bac bleu, on ne peut pas mettre ces cartons?
On peut. On peut, mais pas des trop gros. Et c'est pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le carton ondulés, marrons, classiques, enfin les gros cartons.
Pour déménager, etc.
Se valorise beaucoup mieux que le papier mélangé qu'on met dans ces bacs si vous l'apportez en déchetterie. Donc l'idée de cette signalétique au démarrage, c'était de dire amenez vos gros cartons en déchetterie. Sauf que ça a été mal compris. Je pense que c'est un raté. On va sûrement revoir les autocollants dans l'année parce que on s'aperçoit que du coup, vu qu'on dit pas de carton dans le bac bleu et que le bac jaune est intitulé emballage, les gens ont tendance à remettre leurs gros cartons dans le bac emballage. Ce qui est aussi gênant, c'est-à-dire que ça nous bloque les systèmes
c'est encore pire parce que
vidage. Donc, on met des fois 5 à 10 minutes à vider, de plus que la normale, à vider ces conteneurs dans le camion parce qu'il faut secouer, voire aller manipuler avec une gaffe, etc. Et là, c'est aussi gênant. Donc, les gros cartons, la consigne, c'est en déchetterie. Par contre, les petits cartons, la cartonnette d'emballage de cornflakes et les petits cartons ondulés qui rentrent dans les boîtes aux lettres, là, allez-y, vous pouvez les mettre. C'est mieux qu'ils soient là plutôt que dans les emballages ou plutôt que dans les ordures ménagères.
Et alors, ces gros cartons, c'est quoi leur valorisation plus intéressante du coup? Allons-y.
Ils passent sur des circuits de valorisation plus courts, c'est-à-dire qu'ils sont revalorisés de mémoire chez Emma Lédier, donc dans la Drôme directement. Donc, on a un circuit de reprise qui est beaucoup plus court, alors que les papiers en mélange sont traités par des repreneurs. Je pense que celui qui va être retenu par le citrate cette année pourrait être dans les Vosges. Donc, ça part beaucoup plus loin dans les usines. Donc, le carton, c'est très intéressant parce qu'on le vend, quand il est bien trié, on le vend plus cher que ce mélange. Et en plus, il est retraité dans la Drôme. Donc,
il est recyclé en carton tout de suite.
Oui, c'est ça. Mais de manière générale, tous les fibreux sont bien recyclés. Il faut savoir qu'un papier, vous pouvez le recycler 4 fois. Donc, la 5e fois, les fibres sont raccourcies, etc.
On fait aussi de la ouate recyclée
et on fait de la ouate ou on fait du papier, le type papier hygiénique, etc., qui demande des fibres plus courtes. Mais le papier est recyclé en papier 4 fois de suite, au moins. Ça, c'est pas...
L'exemple du carton qui est le plus coutumier chez nous, c'est le carton à pizza. Donc, forcément, il faut le piétiner. Après, notre exemple, un carton de clairette vide, bien sûr. Donc, c'est pareil. Moi, on m'a posé la question. Je dis, il faut l'écraser et on peut le mettre.
Ouais.
Voilà. Mais ça s'arrête là, il ne faut pas que ce soit plus volumineux.
Sinon, ça bloque les systèmes.
Voilà.
Et on perd aussi du produit de vente de ces matériaux-là, puisqu'on les vend moins cher.
Et puis, c'était cette question d'aller en déchetterie, de faire des déplacements en déchetterie, là où certaines personnes ne les faisaient jamais avant. Mmh. Et de toute façon, ces cartons bien pleins étaient plutôt jetés dans le conteneur vert à l'époque. Personne ne les découpait en morceaux pour les passer dans les petits trous.
De manière générale, tout est loin d'être parfait. C'est-à-dire qu'on est plutôt content de la façon dont ça s'est passé. Il y a encore des ratés. Celui-ci en est un. Mais ça ne va pas se corriger immédiatement parce que le service est sous pression depuis le mois d'octobre. Voilà, on est très sollicité. Donc, on a des retards de mise en œuvre sur les points. Par exemple, il y a encore des vieux autocollants qui sont présents. On voulait mettre des indications pour demander aux gens dans les points proches des habitations de ne pas jeter les ordures ménagères entre 21h le soir et 7h le matin, pour ne pas déranger les voisins, le verre notamment. Donc, ces autocollants-là, on n'a pas eu le temps de les mettre dans des bonnes conditions. Donc, on est en train de finir l'installation de ces points à un rythme soutenable. La priorité pour nous étant de collecter. Et là, on a encore des ratés sur les tournées, vu qu'elles ne sont pas définitivement établies, les tournées de tri sélectif. Donc, j'invite les auditeurs à nous le signaler. C'est-à-dire, n'attendez pas si vous voyez une colonne...
Boucher.
Déborde,
ouais.
Signalez-le soit directement à la communauté de communes, soit à votre municipalité. Et nous, ça nous aide à calibrer nos tournées. C'est-à-dire que, voilà. Et on va apprendre comme ça pendant plus d'un an, puisqu'on n'est pas sûr d'avoir mis les bons contenants en bon volume aux bons endroits, puisqu'on a changé radicalement les habitudes de tout le monde. Donc des fois, de manière très surprenante, alors qu'on avait beaucoup d'ordures ménagères sur un point, le fait d'avoir mis un point... 50 mètres à côté ou 100 mètres à côté, les gens changent complètement de comportement et vont porter leur poubelle ailleurs. Très étonnant. Et ça, c'est pas prévisible. Voilà. De manière générale, on sait qu'on a assez de volume, mais la répartition sur le territoire, donc il se peut qu'on ait des changements à l'issue de cette première année d'observation en se disant, à cet endroit-là, l'année prochaine, on mettra un conteneur supplémentaire. Alors, en secours, on a des conteneurs aériens que vous pouvez voir dans la ville de Die essentiellement, puisqu'on a des phases de travaux qui ne sont pas terminées avant de mettre des conteneurs enterrés. Vous en avez à Saint-Pierre, vous en avez au Perrier, il y en a un au lycée, enfin voilà.
Au Clap Saint-Luc.
Au Clap Saint-Luc, mais celui-là restera, parce que c'est en termes d'intégration, on aurait peut-être eu des difficultés à avoir des autorisations de travaux dans les délais. Donc ces conteneurs-là sont appelés à venir à des endroits où ça va déborder de manière chronique cet été parce qu'on n'aura pas le temps de passer commande, d'installer, de creuser. Il nous faut 2-3 mois avant de faire une installation correcte de conteneurs enterrés. Donc on a ce secours-là, mais il ne sera peut-être pas suffisant et peut-être pas placé au bon endroit. Donc là, on va apprendre. Donc on aura des ratés.
Affinage encore en cours. Philippe Méjean, Jean-Pierre Rouit, second point qui, je pense, est important de signifier là à nos auditrices et auditeurs, à partir du 26 mars, si ma mémoire est bonne, ou du 29, on ne pourra plus accéder aux déchetteries si on n'a pas une carte. On avait un petit peu parlé de ça déjà à la dernière émission, dans laquelle vous disiez qu'il était important que vous puissiez connaître qui vient déposer dans ces déchetteries et que principalement vous saviez que alors que certaines déchetteries sont payantes ailleurs, on avait un afflux comme ça de personnes qui venaient de l'extérieur pour utiliser les déchetteries du DIWA. Est-ce que donc c'est bien ça encore l'objectif? Comment cette carte est-elle lancée? Est-elle bien reçue et bien perçue?
Tout à fait. Donc, c'est un travail aussi qui a été mené par la commission d'ordures ménagères. Donner une identité au territoire et chaque personne du territoire puisse accéder à la déchetterie et justement permettre, éviter aux personnes d'ailleurs qui ne sont pas de notre territoire qui puissent bénéficier de nos déchetteries. Parce que nous, derrière, on a un coût d'évacuation. Philippe, tout à l'heure, l'a rappelé. Voilà, donc c'est un travail qui a été mené, qui se met en place, donc fin mars. Ça se passe pour la distribution, ça se passe pour les particuliers, pour les foyers, ça se passe à la commune de son domicile. Et pour les professionnels, ça se passe à la communauté des communes du DIWA. Et pour bénéficier de la carte, il faut donner son identité d'entreprise avec un numéro de ciré. Voilà, donc la mise en place, on va commencer à demander la carte début avril. C'est pendant les vacances de Pâques, voilà. Et on ne va pas repousser les gens. On va dire, bon, t'as pas ta carte, va vite à la mairie, va vite à la Comcom pour t'identifier. Voilà. Et vraiment, le gros va se faire dans l'été. Là, dans l'été, une fois, on va tolérer. Et puis, deuxième fois, on va dire, bon, ben, il faut vous rapprocher de la mairie, et ainsi de suite. Voilà. De façon à ce qu'on soit calé vraiment à l'automne pour tout le monde. Mais c'est vrai que nous, on a un territoire où il y a beaucoup de résidences secondaires. Donc, il ne faut pas les offusquer non plus. Parce que tout le monde nous dit, mais ça se fait en ville. Vous faites ça, dans la campagne, vous faites ça aussi. Maintenant, on leur explique qu'on est obligé. Parce que derrière tout ça, on a un coût.
Et les particuliers aussi donc ont cette carte. Alors, je vais poser la question, une autre question tiens, d'auditeur. Est-ce que cette carte va permettre à terme de calculer réellement du coup les volumes de chaque personne, y compris les particuliers, et donc pourquoi pas de faire participer les usagers au prorata de ce qu'ils amènent comme volume, comme c'est le cas par exemple sur la gestion de l'eau qu'on a aujourd'hui. On intéresse les gens à savoir quelle consommation ils ont.
On va pas te faire une réponse maintenant. On va pas se voiler la face, on va parler clair. C'est la loi.
Ah.
C'est la loi. Donc, ce n'est pas avec la petite carte que chacun va être équipé, doté. Ce n'est pas une question de poids. Ça risque d'être une question de passage, d'ouverture à la déchetterie. Un passage, deux passages, trois passages. Voilà. Après, le poids, ça serait beaucoup plus compliqué pour nous. Mais c'est la loi. On est obligé. Le travail que la commission d'ordure ménagère à la communauté de communes s'est posé la question et on a dit on fait notre réforme, ça sera déjà pas mal si ça se passe bien. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas si mal que ça. Et l'histoire du passage ou du tonnage, du poids, on verra dans quelques années.
Ce qui est clair aujourd'hui dans la tête des élus de la commission et de l'exécutif, c'est que, un, il faut une identification pour éviter que ceux qui ne payent pas leurs taxes ou leurs redevances dans le DIWA, n'utilisent pas gratuitement un service qui est payé par les redevables DIWA. Ça paraît logique. Ça fonctionne comme ça à bien des endroits. La carte, cette année, sera présentée physiquement et il n'y aura aucun enregistrement de volume systématique. Il n'y aura même des fois pas enregistrement du passage systématique sur un fichier. C'est-à-dire que là, on n'est même pas parti pour ça cette année. C'est juste une identification. Ce qu'on fera cette année, par contre, dans le courant de l'été, et de manière en sondage, c'est-à-dire sur l'ensemble des déchetteries, on regardera qui apporte quoi. Donc avec des services civiques qui auront aussi pour mission d'assister les gardiens de déchetterie et de dire, là, ici, ce serait mieux trier, voilà pourquoi on vous demande de trier là. Donc, pour information, avec la carte, vous avez un guide du tri qui est diffusé gratuitement à tous les foyers. Il y a 28 pages. On a essayé d'être très graphique, avec des chiffres un peu clés, un peu percutants, et très pratique, en disant, vous avez ce déchet, c'est là qu'il va, et voilà pourquoi il y va, et comment il est traité derrière, qu'est-ce qu'il devient, donc pour que les gens comprennent pourquoi on leur demande de faire ce geste. Ce n'est pas qu'économique, il y a aussi des avantages environnementaux, il y a aussi, des fois, des avantages sociaux, parce qu'on va avoir une valorisation plus locale de ce matériau. Ensuite, la commission, sur la base des données qu'on aura, et les assemblées de la collectivité, décideront ou pas de faire évoluer la fiscalité des entreprises. Mais ça, aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Il n'est pas prévu, ça. Et pour les particuliers, ce n'est pas prévu du tout, puisque dans la taxe ordure ménagère, vous avez l'accès à la déchetterie. Quand Jean-Pierre
dit
c'est la loi pour les entreprises, on devrait avoir depuis 1993 une redevance spécifique pour les entreprises. Et on n'est pas la seule collectivité à avoir 23 ans de retard sur cette loi. Il y en a un bon tiers en France.
Okay.
Ce sont des choix politiques de freiner parce que, voilà, il y a toute une histoire à ça. On n'a pas non plus dans notre territoire des services équivalents aux services que les entreprises des zones urbaines peuvent trouver. Elles vont trouver facilement des repreneurs, des gens qui viennent, des collecteurs, qui viennent dans leurs locaux reprendre leurs matériaux professionnels puisque la loi dit pollueur-payeur. Reprenez les matériaux, si vous êtes vendeur, vous devez évacuer vos matériaux professionnels par des voies professionnelles, pas par la voie du service public d'ordures ménagères, des déchets ménagers. Normalement, on est en charge des déchets ménagers à la communauté de communes. Voilà. Mais bon, c'est évident que dans le DIWA, vous n'avez pas les mêmes services d'évacuation pour les entreprises. Ouais. Donc les élus ont choisi, il y a une forme de logique, de résistance politique logique, de ne pas le facturer, si c'est raisonnable. Si c'est raisonnable, et c'est cette mesure-là qu'on va faire.
Ouais. Et puis c'est ce qui a permis justement de voir tout de suite que des entreprises de l'extérieur venaient là, puisque c'était pas raisonnable chez eux.
Mais on a aussi vu des entreprises d'Ivoise qui amenaient massivement des déchets, alors qu'elles pouvaient avoir, vu les volumes et vu la nature de leurs déchets, des évacuations professionnelles à des tarifs corrects. Et donc on les a accompagnés. Il y a déjà eu un gros travail qui a permis d'enlever une partie des tonnages qu'on avait dans les ordures ménagères ces dernières années, de les enlever, et ça a été pour une grande partie des déchets d'entreprises qui sont sortis de ces circuits-là, de grosses entreprises. Voilà.
Un petit point peut-être pour terminer sur les déchetteries de Luc et de Minglon qui se partagent étonnamment, enfin peut-être pas, c'est très logique sans doute, mais se partagent la totalité des services qui sont addis. Est-ce que il va y avoir une uniformité des services sur l'ensemble des déchetteries ?
Oui, c'est un débat qui est sur la table de la commission d'ordure ménagère. Hein. Voilà, ça maintenant que la réforme est sur la route, c'est un nouveau chantier qui démarre. Voilà, et c'est un chantier qui va être compliqué aussi, parce que tu parles de Luc, de Minglon, mais il y a surtout Di.
Donc il faut toutes qu'elles soient agrandies. Quoi.
Surtout celle de Di. Celle de Di, parce qu'on a, notre parc de matériel qui est dans l'enceinte. Il y a aussi les vestiaires pour nos équipes, les commodités, et bien sûr, toutes les bennes. Donc ça devient un peu compliqué, et il faut qu'on assure une bonne sécurité pour tout le monde. Donc c'est un travail de réflexion qui commence.
Matériellement, sur Luc, il est prévu d'enterrer une colonne de grand volume pour le verre. On a reporté ça, on aurait dû le faire en fin d'année dernière. La charge de travail n'a pas permis qu'on fasse cet aménagement. De manière générale, on va proposer plus de flux dans l'ensemble des déchetteries. Si on prend l'ensemble du DIWA, déjà en fin d'année dernière sur Luz-la-Croix-Haute, on a rapatrié dans l'enceinte même de la déchetterie les déchets verts, le bois, avec un circuit de reprise qui est organisé, les gravats, où c'était tout mis en vrac, tout mélangé, voilà. Donc, dans toutes les déchetteries du DIWA, les agents ont été formés pour tous les déchets ménagers spéciaux. Donc, ça s'appelle les déchets diffus spécifiques, DDS. En gros, tout ce qui est potentiellement polluant ou dangereux pour la santé. Donc, vos fonds de peinture, de solvant, etc. Donc là, toutes les cabanes dédiées à cet effet sont maintenant en service avec des gardiens qui savent trier. En sécurité, parce que c'est dangereux de manier ces produits-là, donc avec une évacuation pour la plupart gratuite. Donc c'est réservé aux particuliers, les professionnels peuvent être tolérés pour les petites quantités, par contre pour les grandes quantités sur ces produits dangereux, ils ont toujours été refusés et on continuera à le faire, c'est pas gérable dans ces déchetteries. De manière générale, les pneus vont être accueillis dans des conditions décentes dans l'ensemble des déchetteries. Là, c'est pareil, c'est réservé aux particuliers parce que les professionnels sont enlevés gratuitement au niveau de leurs pneus par le même prestataire que nous, d'ailleurs. Voilà. Et on va tester sûrement du tri d'autres matériaux cette année. Alors, surdit à coup sûr.
Comment ?
Alors, on a déjà les meubles
surdit.
Ça devrait être étendu à la déchetterie de Minglon dans l'année, si on a un accord de notre éco-organisme. Et d'année en année, on aura une benne de plus sur le Diwa. Donc après, ce sera Luc, Lamotte et Luce qui seront équipés pour les meubles, qui nous enlèvent autant de tonnes des encombrants. Hein. Quand vous mettez dans les encombrants, ça nous coûte 200 euros la tonne.
Cette benne est catastrophique d'ailleurs d'encombrants.
80 euros de traitement, plus le transport, plus le temps de gardiennage,
et de l'air à fond aussi.
Et de l'air à fond. Donc si on arrive à sortir les meubles des encombrants, derrière, on pourra plus facilement tasser le plastique, voire même trier du plastique, parce qu'on va peut-être faire un essai surdit pour certains plastiques. On est en train de se renseigner, certains peuvent se valoriser.
Ouais, la chaise de jardin, par exemple.
Alors, c'est un meuble. Alors, pour les meubles, consigne
meuble.
Très claire.
Okay.
Tout ce sur quoi on peut s'asseoir, tout ce sur quoi on peut poser, donc table, plateau, etc. Tout ce sur quoi, dans quoi on peut ranger, tout ce sur quoi on peut se coucher, c'est facile. S'asseoir, poser,
donc,
ranger,
plus de lit,
se coucher,
plus de
que ce soit
en plastique,
en métal, en bois, etc., dans la benne écomobilier. Les producteurs ont cotisé et ça, l'enlèvement est gratuit pour nous. Donc, et on a même une aide forfaitaire par déchetterie pour que ça se fasse. Donc, trier les meubles en déchetterie, c'est évident. Donc, à 10, c'est possible. À Luc et à Minglon, qui font 20% des tonnages chacun, on espère que ça va se faire assez vite. Et on sera à 90% déjà avec ces trois déchetteries de ce qu'on évacue en encombrant. Donc, c'est bien de faire cet effort et de venir à 10 le temps qu'il n'y a rien ailleurs pour vos meubles, voilà, si c'est possible. Ça, c'est déjà un message. Mais ensuite, on va tester le plastique, on va peut-être tester le polystyrène, on va voir qui peut se revendre.
Oui, le polystyrène.
Voilà, de faire des essais sur des flux qu'on ne trie pas encore. Et sur dit, on voudrait aussi tester tout ce qui est portes et fenêtres, qui nous coûterait moins cher à mettre en destruction sur un site spécialisé qu'à enfouir avec les encombrants. Alors, ça coûterait un peu moins cher et en plus, ça aurait une seconde vie, alors que là, dans les encombrants, ça finit dans une fosse. Et c'est dommage, quoi. Voilà. Le plâtre aussi, pour être recyclé, pour un coût de traitement moindre que l'enfouissement.
C'est pour ça qu'on s'aperçoit que dans nos déchetteries, il faut de la place. Il faut de la place si on veut trier.
Donc là, on est en train de réfléchir.
Toutes les agrandir, quoi.
Déjà, ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce que c'est soumis à autorisation, etc. Mais déjà, on va essayer de recombiner dans les équipements avec la place disponible dès cette année pour avoir un petit peu plus de flux de tri. Voilà.
Et il est où, cet enfouissement ?
Châteauzange-le-Goubet.
Donc c'est loin finalement aussi, ça fait des bornes en camion un peu.
C'est le plus proche qu'on ait trouvé.
Et donc là il y a quoi ? C'est un grand champ qu'on remplit, qu'on referme.
C'est pas si simple que ça, hein. C'est soumis à autorisation. Donc déjà il y a une grosse étude qui est faite en amont, il faut des garanties bancaires, il y a un dépôt d'argent qui est fait par, je crois que c'est pour 20 ans. Hein, parce qu'au bout de 19 ans, quand c'est tout clôturé, tout fermé, s'il y a un souci de pollution, eh ben, on a besoin de cet argent pour assurer après la dépollution. Voilà, puis après, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la gestion du projet. Donc, c'est des gros décaissements avec des fosses de traitement en pied du terrassement. Il y a des fosses de recueillement d'eau avec traitement derrière.
Oui, parce que ce terrain va s'infiltrer de...
Voilà, et surveillance aussi. Hein. Et surveillance, analyse d'eau, c'est très, 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 très complexe et très coûteux.
Récupération des gaz.
C'est pas cool, l'enfouissement.
Non.
Et la méthanisation, est-ce que vous en rêvez à la communauté de communes du Diwa, des centrales de méthanisation ?
Alors, localement, c'est pas évident. Il faut savoir que les déchets enfouis, on récupère du méthane un peu. Et sur le centre de valorisation aussi, au Citrade, là, des ordures ménagères, il y a une part qui est récupérée pour faire de l'énergie, soit directement les gaz, soit des parties combustibles qui sont envoyées pour faire du combustible de substitution. Voilà. La meilleure des choses, c'est quand même de recycler du plastique en plastique, de la matière organique en compost localement sans la transporter. Donc c'est bien à la source qu'on doit faire le plus d'efforts. Et si on veut méthaniser les toutes petites unités, ça peut se faire. Hein. C'est pas nouveau au Danemark à l'échelle d'une exploitation, etc. C'est pas assez développé.
Ou d'un petit immeuble.
Alors, des ordures ménagères à l'échelle d'un petit immeuble, c'est compliqué parce qu'on produit beaucoup quand on compte au niveau de la fiscalité, mais peu quand on compte au niveau de ce qu'il y a besoin de mettre dans un méthaniseur. Quoi.
Avons-nous fait le tour de ce premier bilan de gestion de la collecte des ordures ménagères depuis cette réforme Y aurait-il des points importants
à... Il nous reste à équiper tout ce qui est côté tourisme, tout ce qui était camping, centre de vacances, centre d'accueil. On a ôté tous les petits conteneurs.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Donc là, le chantier, là, il y a encore un chantier qui nous attend. On travaille actuellement avec les hébergeurs. Et
comment vont-ils faire d'ailleurs, là, concrètement maintenant?
L'orientation, c'est bac aérien, hors sol. Voilà. Et nous, on va poser des colonnes de tri aussi. Voilà. Et les bacs aériens hors sol sont équipés pour qu'on puisse, nous, les vider avec notre grue. Voilà, il faut que ce soit compatible avec nos équipements. Donc tout ça, on espère que ce sera calé avant les vacances de Pâques aussi, pour ceux qui ouvrent des Pâques.
Alors, des bacs aériens, c'est-à-dire, c'est un peu des conteneurs améliorés, ou est-ce qu'ils auront le même système d'ouverture pour,
C'est exactement le même tambour, le même système d'ouverture. Et il y a un crochet pour qu'on puisse les vider, un crochet adaptable, nous, à notre camion grue. Ouais.
Donc, ils vont être plus petits, quand
oui.
même
4 mètres cubes au lieu de 5, oui.
Ah ouais.
Un petit peu plus grand que ce qu'on a sur la place Saint-Pierre actuellement.
Toutes les poubelles de 100 litres dont se gavaient nos amis restaurateurs et autres bars, comment ils gèrent leur volume maintenant?
Ça va, bon, ils bourrent un peu, mais on se pose la question à l'exécutif de la communauté de communes si on ne va pas mettre justement à la déchetterie de Die, peut-être dans d'autres déchetteries, un bac aussi pour qu'ils puissent déposer des grosses quantités d'OMR. Voilà.
Jean-Pierre Ruiz, Philippe Méjean, merci à tous les deux pour ce nouveau point sur la gestion et la collecte des déchets dans le Diois. Vous revenez quand vous voulez, peut-être à la fin de l'été après, quand tout aura encore un peu avancé. On peut rester sur cette note positive. C'est pas que ça va pas si mal. Les gens jouent bien le jeu. Alors.
Et on compte sur tout le monde pour que ça se passe bien.
Merci à vous.
Merci. Interview. Okay. L'interview du jour.